Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
On vous en parle depuis le début de la matinale. Ce jeudi, cela fait 10 ans que le rapport mapping de l'ONU sur la République démocratique du Congo a été publié. Ce document détaille des centaines de violations graves des droits humains. Au total, 637 crimes ont été recensés entre 1993 et 2003. Le rapport conclut que la majorité de ces violences peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, voire même de génocide selon l'ONU. Et pourtant, 10 ans après, personne n'a encore été traduit en justice. Non seulement les recommandations de cette enquête sont restées lettre morte, mais depuis sa publication, les crimes se poursuivent en RDC, particulièrement dans l'Est. L'occasion donc ce matin de lancer le débat. Pourquoi est-il si compliqué de juger les responsables? À quand la fin de l'impunité? Vos réactions, vos témoignages évidemment nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires, vos réactions sur Facebook et WhatsApp. Et c'est l'occasion également, ce matin, durant les 20 prochaines minutes, de répondre à vos questions concernant ce rapport. À mes côtés, Sonia Rollet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. En ligne de Kisangani, Dismas Kitenge, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Lotus, Organisation de défense des droits humains. Le groupe Lotus a contribué à la rédaction de ce rapport mapping aux côtés d'autres organisations comme la FIDH, l'Association africaine des droits de l'homme, la Ligue des électeurs. Dismas Kitenge, en ce 1er octobre 2020, marquant donc les 10 ans de ce rapport, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Merci beaucoup, Juan Gomez. Je suis dans un état d'esprit de déception d'abord, de voir que ce grand travail que nous avons fait n'a pas donné encore les résultats escomptés. Deuxièmement, c'est d'interpellation que la lutte est encore longue pour la justice, pour les victimes, pour qu'elles aient accès à la vérité, à la justice, à la réparation, et que nous devons encore beaucoup, beaucoup multiplier d'efforts pour obtenir les résultats.
Vous multipliez les efforts au quotidien, Dismas Kitenge, comme d'autres évidemment, et je pense notamment au prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, qui dénonce au quotidien l'impunité dont bénéficient les auteurs de ce crime. Ça vous vaut des menaces de mort, Dismas Kitenge?
Oui, tout dernièrement, j'ai dénoncé la présence d'un de généraux qui est devenu général aujourd'hui, mais à l'époque il était commandant du mouvement rebelle et qui a été affecté dernièrement par les ordonnances du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi comme commandant de la 31e région militaire, et ça m'a coûté beaucoup de menaces de mort au téléphone, par un numéro bien identifié, menaçant moi-même ma famille et aussi certains de mes collègues. Mais cela rentre aussi dans les cadres de ces rapports mapping qui a ciblé des personnes qui étaient là, qui aujourd'hui bénéficient de l'impunité totale et qui bénéficient même aussi de l'élévation dans le service de sécurité. Et donc c'est regrettable, et quand les défenseurs de droits humains que nous sommes dénonçons ça, et ça nous coûte beaucoup de menaces, et l'État congolais reste inactif, reste insensible vis-à-vis de ces menaces. Par exemple, moi j'ai porté plainte contre X au regard des menaces que j'ai commis, et jusqu'à présent je n'ai pas été approché par le parquet auprès duquel j'ai déposé la plainte pour savoir identifier les auteurs de ces menaces et me sécuriser davantage.
Sonia Rollet, le rapport mapping est un rapport qui dérange. C'est un sujet tabou encore aujourd'hui, 10 ans après sa publication.
Oui, et c'est vrai que c'est ce que répète le docteur Mukwege, mais on le voit, on n'a pas les noms. Vraiment, des auteurs de ces crimes, c'est-à-dire que l'ONU a toujours refusé de les publier en disant que ce serait difficile, en fait, de protéger les victimes, et on le voit, quand on dénonce, on peut avoir des problèmes. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qui était à peu près à la tête des unités à ces époques-là, puisque il y a quand même le Pampic Report qui nous dit c'est telle force et autres, et ça donne une idée à peu près de savoir qui sont les auteurs, et on sait que ben une grande partie de la classe politique congolaise en est sortie, donc forcément là, oui, les forces de sécurité aussi, puisqu'il y avait brassage entre ces troupes, et puis il y a dans tous les pays voisins également les gens qui sont restés au pouvoir. Donc
alors vous l'évoquiez à l'instant justement, le fait que les noms des auteurs de ces crimes n'aient pas été publiés, ou en tout cas n'a pas été rendu public. Patient Paul a justement des questions à vous poser sur ce point très précis. Bonjour Patient Paul.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne mondiale.
Merci, on vous écoute.
Ouais, j'aimerais savoir donc pourquoi dans les différents rapports que Mapping a toujours publiés, les noms des auteurs de ces crimes, là, ils ne figurent pas. Ouais. À quoi sert bon de chaque année de faire donc ces rapports qui n'aboutissent donc à rien?
Oui, alors c'est, effectivement, je me mets à la place des auditeurs, des Congolais qui se disent, mais l'ONU a la liste des coupables, la liste des criminels, la liste de ceux qui ont commis ces crimes. Pourquoi l'ONU ne publie-t-elle pas cette liste?
Alors, d'abord, c'est pas un travail judiciaire. Le rapport Mapping, ils ont collecté des informations sur base de documents, sur base de témoignages. Ils ont identifié, mais normalement, un travail de justice est censé se faire. Donc, c'est vrai que de les pointer, d'abord, ce serait que des suspects, puisqu'il faudrait quand même qu'il y ait un procès pour les condamnés.
Auteur présumé,
voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça a été une stratégie qui a été décidée délibérément par les équipes qui, en fait, avaient été un peu refroidies par un rapport Mapping qui avait été fait en Afghanistan et qui avait listé, en fait, avait même donné les crimes qui avaient été commis, et ce rapport n'est jamais sorti, puisqu'on voyait les Américains, les Russes, les Afghans et les Talibans par exemple. Donc ils avaient choisi délibérément de se dire bon, on va pas mettre les auteurs en avant. Et ensuite, pour la publication de la liste, alors ils ont fait quand même une base de données qui sert aujourd'hui tous les jours, puisque c'est ce qui sert à faire la politique de vetting pour les Nations Unies, c'est-à-dire de dire on n'aide pas ce colonel là ou ce général là.
Mais cette base de données reste confidentielle.
Voilà. Et ils s'en servent aussi pour la justice, c'est-à-dire que s'il y a des demandes de justice, ils disent que c'est possible de transmettre des informations à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour le grand public, ils ont décidé que c'était pas possible, ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité, et c'est ce à quoi le docteur Mukwege répond, mais en fait, on leur offre l'impunité en donnant pas leur nom, et finalement, les victimes se retrouvent à travailler avec les bourreaux ou à se retrouver sous la coupe des bourreaux.
Dismas Kitenge, c'est un argument que vous comprenez, nous ne publions pas le nom des personnes responsables pour ne pas mettre en danger les victimes et les témoins de ces violations des droits de l'homme.
Et en partie, c'est vrai, pour la protection des victimes et des témoins, mais ce qui est plus important, c'est le manque de volonté politique de l'État congolais. Puisque ces crimes ont été commis sur le territoire congolais, il appartenait d'abord aux autorités congolaises de manifester cette volonté de pouvoir mettre le mécanisme de justice en place. Et deuxièmement, à mon avis, c'est que les victimes congolaises, bien que ne soient pas encore dans la sécurité, mais les victimes n'ont pas fait un effort de pouvoir s'exprimer davantage, de faire des pressions, de pouvoir pousser les autorités congolaises à poursuivre. Mais vraiment, là aussi, il faut l'accompagnement. Et troisièmement, c'est la société civile. La société civile congolaise, nous aussi, nous n'avons pas beaucoup poussé du côté des poursuites. Mais il y a aussi les États de la communauté internationale qui sont partenaires de la République démocratique du Congo, qui n'ont toujours pas mis en avant la question de la justice par rapport à la paix, par rapport à la stabilité, puisqu'il y a beaucoup de partenaires congolais, des partenaires internationaux, des États qui coopèrent avec la RDC, qui estiment que la stabilité de la RDC, la paix, prévalerait plus que la justice, alors que la paix et la justice doivent aller ensemble.
Ouais, il ne peut pas y avoir de paix sans justice, c'est en substance le discours du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Nous repassons standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Alidor.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Rapidement, je voudrais profiter de votre micro pour m'incliner devant la mémoire de tous les considérés qui continuent à mourir et ça doit cesser.
Très bien. Vous avez une question Alidor?
Absolument. Dans ce rapport Mapping, justement, il est, à contraire, établi que le Rwanda est responsable des tueries et des crimes atroces contre les populations congolaises. Du coup, je voudrais savoir comment expliquer qu'il n'y ait aucune sanction jusqu'à présent.
Alors, Sonia Rollet, certains des crimes cités dans ce rapport sont imputés à l'armée rwandaise, mais aussi aux alliés rwandais de l'époque, le groupe rebelle AFDL. Le Rwanda a toujours critiqué ce rapport, déjà, dès sa publication.
Oui, alors ils ont critiqué, ils ont dit que la méthodologie n'était pas bonne, que c'était pas sérieux. Ils ont dit aussi que le rapport mapping ou l'équipe du rapport mapping avait été manipulée par les témoins et que on prenait pas assez en compte l'argument sécuritaire. Il faut savoir que effectivement après le génocide de 94, il y a 2 millions de réfugiés qui sont de personnes qui sont réfugiées au Congo, parmi lesquelles il y avait les milices qui avaient participé au génocide, parmi lesquelles il y avait aussi des anciens membres de l'armée rwandaise, donc les ex-FAR, et que bah c'était tout proche des frontières avec des camps militarisés, donc des camps du HR militarisés. Et c'est donc 2 ans après le génocide, l'armée rwandaise rentre au Congo et ces massacres commencent. Donc c'est vrai que le Rwanda a toujours mis en avant le fait que c'était qu'il se battait contre des civils qui étaient armés, donc de globaliser, de dire tous les réfugiés finalement étaient armés et c'est pour ça qu'ils s'en prenaient à ces réfugiés. Mais c'est vrai que ce à quoi on a assisté, c'est que à chaque fois qu'il y a eu en fait tentative, d'abord les rapports sont pas beaucoup sortis. Beaucoup de rapports qui ont été enterrés sur ces tueries, que ça soit au Rwanda, au Congo, et il y a eu des pressions sur les Nations Unies. On sait qu'il y avait de la culpabilité au sein de la communauté internationale après le génocide, et que ça, ça a joué. Et puis on sait aussi que le Rwanda participe aux opérations de maintien de la paix, par exemple.
Et notamment à l'époque, c'était au Darfour.
Voilà.
Et le Rwanda avait menacé de retirer ses 3000 casques bleus.
Voilà. Et le Rwanda avait quand même réussi à maintenir pendant un an à la tête de la mission de l'ONU au Darfour, quelqu'un qui était accusé de crimes au Congo, et sur lequel il y avait quand même des éléments assez sérieux. Donc on voit bien que le Rwanda avait une capacité quand même d'imposer des choses. Finalement, le rapport est quand même sorti, mais c'est vrai que on n'a pas vu par exemple, on voit auprès de la Cour internationale de justice, finalement la RDC a retiré sa plainte. On n'a pas vu de volonté non plus de la RDC d'aller contre le voisin rwandais qui régulièrement soutenait aussi, il faut bien le dire, des rébellions qui perturbait l'Est du Congo.
En deux mots, Dismas Kitenge, vous êtes indirectement pris à partie par le Rwanda, puisque votre ONG, je le rappelle, le groupe Lotus, a participé à la rédaction de ce rapport. Vous avez aidé les Nations Unies à rédiger le rapport mapping sur ces violences. Le Rwanda dénonce de graves erreurs méthodologiques, Sonia Rollet le disait à l'instant, et dénonce également un processus manipulé par certains acteurs dans le but de réécrire l'histoire. Qu'avez-vous envie de répondre ?
C'est pas vrai. Hein. Le Rwanda, par exemple, pour la guerre dite de 6 jours à Kisangani, l'armée rwandaise ouvertement s'est battue avec l'armée ougandaise sur le sol congolais à Kisangani, où il y a eu plus environ 1000 personnes civiles non combattantes qui ont été tuées. Donc le Rwanda, le problème c'est que le Rwanda ne veut pas être indexé, mais le Rwanda a été aussi aménagé par le Congo. Le Rwanda a été aussi allié du Congo. N'oubliez pas que c'est les rapports mapping de 1993 à 2003, mais pendant ces temps, le Rwanda a été aussi partenaire de la RDC. Et le Rwanda est venu aux côtés de la RDC faire la guerre sous prétexte de poursuivre les Interahamwe. Bref, le Congo a aménagé le Rwanda.
Ouais.
Et ensuite, même quand ce rapport a été publié, le Congo n'a pas eu l'intention de déranger le Rwanda. Pourquoi ? Puisque le Congo estime, et les autorités congolaises, ce n'est pas l'opinion du peuple congolais, ni de la population, ni des organisations de la société civile. Le gouvernement congolais, pendant longtemps, a estimé que le Rwanda était un allié important pour faire la paix à l'Est, et que déranger le Congo, le Rwanda, ce serait encore retourner à la case de départ. Puisque le Rwanda, ça c'est celui des langages qui a été dit, le Rwanda est à la fois problème au Congo et à la fois solution du Congo. Cette complexité, cette ambiguïté de la part des autorités congolaises et à la fois de la communauté internationale a conforté le Rwanda dans cette position.
Ouais.
Alors qu'il faut beaucoup de pression, puisque le Rwanda n'est pas que solution, mais le Rwanda est encore trop des problèmes au Congo.
J'aimerais qu'on repasse au standard dans un instant, mais simplement, Sonia Rollet, c'est bien de rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire. À l'instant, Dismas Kitenge faisait référence à ces affrontements à Kisangani, début juin 2000. Les armées rwandaises et ougandaises deux armées étrangères s'affrontent sur le territoire congolais. Et c'est toute la complexité de ces crimes, puisque ce sont des crimes avec, on va dire, compliqués par leur caractère transnational. On se retrouve avec plusieurs armées sur le territoire congolais. Voilà. Et plusieurs groupes rebelles financés, aidés par les pays voisins.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est, évidemment, parce que là, d'un seul coup, c'est pour ça que le docteur Mukwege demande un tribunal pénal international. C'est parce que, effectivement, il y a des acteurs étrangers, et que, dans ce cas-là, on voit bien que l'argument sécuritaire qui était mis en avant au Rwanda, par le Rwanda en 96, bah, quand on arrive dans les années 2000 et qu'ils se battent avec l'armée ougandaise, ils en sont plus à lutter contre les Interahamwe ou à défendre leurs frontières. Et c'est que petit à petit, et c'est là où on parle de l'exploitation illégale des ressources, il y a eu cette volonté d'exploiter illégalement les ressources de la RDC.
On accueille Freddy au standard. Bonjour Freddy.
Bonjour Juan Gomez, c'est Freddy Lefongola depuis Luanda.
Eh bien merci de nous appeler de l'Angola. Vous êtes congolais ou pas du tout?
Non, je suis congolais 100%.
Ah, congolais vivant en Angola. Très bien. Vous avez des questions sur l'Ouganda? On en parlait à l'instant avec Sonia Rollet.
Oui, j'ai une préoccupation et une question de savoir de ce que la RDC a saisi la Cour internationale de justice contre l'Ouganda pour ses activités armées à l'est du pays entre 1998 et 2003. Il y a une semaine, la CIJ a ordonné une expertise pour évaluer les dommages causés par cette occupation. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi l'occupation ougandaise est spécifiquement ciblée par la RDC, alors que l'occupation rwandaise aussi a été plus mortelle que l'occupation ougandaise?
Sonia Rollet, bonne question.
Alors, c'est au départ, les plaintes allaient dans tous les sens. Hein. C'était pas seulement l'Ouganda. L'Ouganda est la seule qui est restée. L'Ouganda, d'ailleurs, a été condamné déjà. Mais c'est le Congo qui a retiré ses plaintes et c'est le Congo qui a décidé contre qui il portait plainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là de cette procédure, ça va être... Il y a une idée d'avoir violé finalement le droit international, d'avoir violé le territoire congolais et de devoir évaluer donc des dommages et intérêts. C'est ce qui va être fait parce qu'il n'y a pas eu accord entre le Congo et l'Ouganda, parce que même là, la RDC de Félix Tshisekedi avait décidé de discuter, d'essayer de négocier avec les Ougandais, mais visiblement, ça n'a pas abouti.
Et donc, ça doit se régler devant la Cour internationale de justice, cette même Cour qui avait déjà condamné l'Ouganda en 2005, si ma mémoire est bonne.
Voilà, c'est vraiment juste... Quel dommage et intérêt? Souvent, les condamnations peuvent être faites en deux temps. Il y a la condamnation et ensuite, on décide de ce que doit être les dommages et intérêts. Et là, il s'est passé le temps qui s'est passé parce que justement, il y a eu une négociation, il n'y avait pas forcément volonté d'aller jusqu'au bout de cette procédure, y compris du côté congolais.
Autre question au standard. Awawani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, merci de me donner cette fenêtre. Ma question est celle-ci. Est-ce que le rapport Mapping a été enterré parce que les entreprises multinationales, notamment provenant des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, sont impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles de la région?
Effectivement.
Voilà ce qui me taraude un peu.
Mais je comprends, c'est une question pertinente. Sonia Rollet, est-ce que le rapport Mapping met en cause les sociétés étrangères, les multinationales qui, à l'époque, exploitaient les sous-sols, les ressources minières de la RDC?
Alors non, ils ne le mettent pas directement en cause, mais par contre, il y a effectivement une catégorie de crimes, enfin où ils ont bien pointé qu'une partie des crimes qui étaient commis, donc des massacres qui étaient commis, étaient liés à cette exploitation des ressources. Donc c'est toujours quelque chose qui est étudié, de toute façon on le voit encore avec le groupe d'experts des Nations Unies, et il y a des suites par rapport à ça, mais c'est vrai que ils n'ont pas nommé les entreprises, de toute façon c'est très rare qu'il y ait des listes d'entreprises comme ça, même dans les grandes enquêtes, ça se fait quasiment jamais.
Et lorsqu'on entend ici et là la rumeur dire mais des multinationales ont financé des groupes armés, donc elles sont évidemment responsables des deux guerres.
En fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont financé l'extraction. Et comme les groupes armés étaient situés sur des concessions, nécessairement on paye un peu d'argent à chaque groupe. Je me souviens qu'entre des fois des aéroports et des zones minières, il y avait parfois trois groupes. Les sociétés, en gros, payaient les trois groupes pour être tranquilles et sortir les minerais. Jusqu'à ce que finalement, il y ait tellement de groupes que ça devienne trop cher, presque, de les sortir. C'est ce qui se passe régulièrement dans l'Est du Congo.
On a encore beaucoup, beaucoup de questions au standard. Sonia Rollet, est-ce que votre emploi du temps vous permet de rester encore un peu plus longtemps dans l'émission?
Oui, avec plaisir.
Avec plaisir. Formidable. Dismas Kitenge, Vous pouvez, on peut vous retrouver dans 10 minutes après le journal pour continuer à répondre aux auditeurs et dialoguer avec eux. Beaucoup souhaitent donner leur point de vue. Certains souhaitent également témoigner. Et je profiterai évidemment de la deuxième partie de l'émission pour lire quelques-unes des nombreuses réactions reçues sur la page Facebook et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Donc continuez à nous appeler. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole à l'occasion des 10 ans de la publication du rapport Mapping de l'ONU sur la République démocratique du Congo. 33 9 693 693 70. On se retrouve juste après la dernière édition d'Afrique Matin. À dans 10 minutes.